avec Hélène Denis. Bonjour à tous et à toutes. C'est le 23 septembre 2025, première journée complète de l'automne 2025, puisque l'automne est arrivé hier à 14h19. Avez-vous senti le changement, Mathieu?
Non.
Mais ça commence à rougir, hein? Je parle pas de votre visage, là.
Ça rougit, ça jaunit.
Oui, oui, les couleurs, c'est tellement beau. Oui. Est-ce que vous êtes plus automne ou été ou hiver ou printemps?
Pleine lune. Au mois d'octobre.
OK. Donc,
comme une chanson de Michel Rivard.
Ah oui, la lune d'automne.
Ouais.
Est-ce que vous l'avez mis hier? Parce que je n'étais
pas
là.
Non, pas du tout. Ben non.
On pourra la diffuser peut-être pas aujourd'hui, là, mais dans les prochains jours, parce que l'automne dure plus qu'une journée. Et j'en profite pour dire un grand merci à Denis Martin Chabot qui était là hier à l'antenne pour animer cette émission. Il a accepté au pied levé de me remplacer et je l'apprécie énormément. On vous a entendu déjà, André Lacombe.
Bonjour, Hélène.
Ça va?
Ça va et vous?
Oui. André, vous allez nous parler aujourd'hui d'origine de mots et d'expressions du Québec.
Du Québec, pour la plupart, effectivement. Alors, on verra l'étymologie, le sens de ces mots et de ces expressions.
Parfait. Merci d'être là. On aura la chronique économie en compagnie de Michel Poitvin. Aussi, on parlera avec la directrice artistique et co-directrice générale du FIL, le Festival international de la littérature, qui prend son envol demain, le 24 septembre. La chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui a lu et beaucoup aimé Recueillir de Louise Warren. Et c'est pas mal le menu de ce mardi 23 septembre que je vous souhaite très agréable.
On dit où ce qu'on vous trouve, la ligne est fine, ouais. Si c'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te vouloir. Que pour toi, oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seule si t'es jamais manqué d'amour. Si tu te tasses, cause dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini, mets-toi là, j'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver. Non, j'ai des mi-sommets, et à côté sur le mur, en chaîne de fusil, pas de mal. Je pourrais m'y faire, c'est sûr, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas te faire la bisoule. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir, on fait des plans que pour toi. Mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude, non. Mais je veux pas te faire la vie dure. J'ai pas encore l'habitude. Mais je veux pas te faire la vie dure.
Mmh. l'habitude d'une chanson de Rose.
À la une du Journal de Montréal, Québec veut empêcher les Hells de s'afficher. Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, vise des règlements pour que les gangs ne puissent plus arborer leurs couleurs en public. Également, la famille réclame justice. L'ado abattu par la police n'avait pas d'armes à feu. Ça s'est passé dimanche. « Je veux que justice soit faite », lance en larmes Sharif Rezaï, rencontré sur la scène de crime hier midi. « C'était un bébé, un petit garçon de 15 ans inoffensif. Je veux des réponses. » Vers 15 heures dimanche, la présence d'au moins une vingtaine de jeunes vêtus presque majoritairement de noir et arborant des capuchons a fait sourciller de nombreux résidents d'un quartier résidentiel familial et paisible de l'arrondissement de Saint-Hubert. Plusieurs d'entre eux portaient des masques pour cacher leur visage et semblaient menaçants. Comme d'autres, j'ai appelé le 911, a confié une voisine, craintive au point de taire son nom. Le groupe s'est dirigé vers un secteur boisé. Puis une poignée d'entre eux est ressortie, agitée et en courant. C'est à ce moment qu'un premier duo de policiers est arrivé, croisant ainsi le chemin du jeune Nouran Rezaï. Celui-ci se trouvait avec trois autres amis. Les policiers sont débarqués de leur voiture, ont braqué leurs armes sur nous et se sont placés derrière leur portière en disant avoir reçu des appels pour des jeunes armés, a raconté l'un des copains de la victime, rencontré sous le couvert de l'anonymat. Ils nous ont demandé si on avait des armes. On a répondu que non. Et là, Nouran a mis sa main dans son sac à dos qu'il portait devant lui et ils ont tiré une première balle. Pendant qu'il était en train de tomber par terre, ils ont tiré une deuxième balle, a-t-il ajouté. Cette version des faits a été corroborée par de nombreux voisins qui sont marqués par un détail en particulier, la vitesse à laquelle le policier a tiré sur la jeune victime. Il semblait vraiment inoffensif, lance une voisine et témoin du drame qui préfère demeurer anonyme par crainte de représailles. Ils n'ont même pas tenté de dialoguer avec eux. Ça s'est passé tellement vite. Pourquoi ils ne l'ont pas taisé avec un pistolet à impulsion électrique? Pourquoi une deuxième balle? Se demande son père en sanglots. Le jeune ami de Nouran Rezaï est catégorique. Il ne portait aucune arme et il ne comprend pas comment les policiers ont pu obtenir une telle information. Les autorités n'ont effectivement retrouvé aucune arme à feu sur la jeune victime ni dans son sac, ont confirmé nos sources. Depuis l'annonce de l'effroyable nouvelle, la mère de l'adolescent peine à se tenir debout. C'est le Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, qui a été chargé de faire la lumière sur cet événement tragique. Maintenant, à la une de la presse d'aujourd'hui, beaucoup de choses. On parle d'accidents de la route, des jeunes qui se font frapper en traversant la rue. Attention, danger, trajet piétonnier vers les écoles. Des écoliers empruntent chaque jour des intersections périlleuses, des rues à plusieurs voies ou dénuées de passages piétonniers. De quoi nous rappeler pourquoi près de 500 enfants ont été blessés par des véhicules au cours des 5 dernières années près des écoles du Québec. C'est à lire dans la presse plus d'aujourd'hui. Plusieurs chapitres écrits par Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin. Et on se rend compte que la plupart des jeunes qui sont blessés ou même tués, c'est dû à l'impatience, à l'imprudence, à l'inconscience, à la malchance, à la vitesse et aussi au cellulaire de part et d'autre, soit l'automobiliste est sur son cellulaire, les yeux fixés sur son cellulaire, ou soit le jeune élève ou la jeune étudiante, les enfants, en fait, qui ont été blessés par des véhicules au cours des 5 dernières années près des écoles de la province, traversent sans trop regarder. Ils ont les yeux rivés sur leur téléphone. C'est à lire, donc, dans la presse d'aujourd'hui. Un autre titre à la une, adolescent abattu par la police, une famille éplorée veut des réponses. Alors, c'est le dossier qui fait la une du Journal de Montréal, qui fait aussi la une de la Presse Plus. Aussi, on parle de One Battle After Another, duo d'enfer. Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro font la révolution. C'est dans la section art de la presse d'aujourd'hui, Pascal Leblanc. Dans One Battle After Another du réputé cinéaste Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro forment un tandem au tempérament opposé, mais qui partage une mission commune. La presse s'est entretenue avec les deux acteurs décorés. On parle aussi de cette fameuse histoire concernant Donald Trump. Donald Trump, que Yves Boisvert appelle Dr. Trump et Frankenstein Kennedy. J'imagine que vous avez entendu parler de cette histoire. La scène serait comique si des vies n'étaient pas en jeu, écrit Yves Boisvert, Donald Trump qui vient annoncer solennellement à la nation que les femmes enceintes ne devraient pas prendre de Tylenol. N'en prenez pas, a-t-il carrément dit. Pourquoi? Parce que, selon des études, entre guillemets, cela peut être associé à un risque accru d'autisme chez l'enfant à naître. Le président d'ajouter, n'en donnez pas à votre bébé car ce n'est pas bon. La thèse reliant l'autisme à l'acétaminophène ne date pas d'hier, William Parker, un biochimiste marginal dont les articles scientifiques ont été généralement refusés, dit avoir la preuve du lien entre la prise de ce médicament et la vaste majorité des cas d'autisme. Il a été consultant pour un groupe de parents d'enfants autistes qui viennent de perdre une cause contre les manufacturiers du médicament. A-t-il raison? Disons qu'au minimum, comme la Cour vient de le conclure, la preuve est loin d'être convaincante. Des études ont montré une association entre le médicament et le trouble neurologique, mais aucune preuve de cause à effet. Les spécialistes nous disent que les causes de l'autisme sont nombreuses et assez mystérieuses, plusieurs facteurs génétiques et environnementaux se combinant parfois. L'autre chose à préciser, c'est que si le nombre de cas rapportés d'autisme a explosé depuis 25 ans, c'est que la définition en a été élargie. Des adultes qui mènent une vie active, ont un emploi, une famille, reçoivent maintenant un premier diagnostic. Être dans le spectre de l'autisme est très différent d'avoir des symptômes profonds d'incommunicabilité. Le nombre de cas très lourds, lui, a peu augmenté. Quand Donald Trump annonce qu'on a trouvé la cause de l'autisme, comme si on avait trouvé un insecte coupable de l'affection en partant, il dit n'importe quoi, à la fois sur la cause et sur ce qu'est cet état neurologique très variable avec lequel des millions de personnes vivent, mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui est grave, c'est de voir le président des États-Unis, sous l'impulsion d'un secrétaire à la santé, vaguement complotiste, décréter faussement l'état de la science. Et je termine avec la une du Devoir. La France reconnaît à son tour l'État de Palestine. Le temps de la paix est venu, a déclaré le président français Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale de l'ONU. Et aussi, enseignement, le cercle vicieux des TES qui deviennent enseignants. On est en train de se cannibaliser entre nous à l'intérieur du réseau de l'éducation. C'est Zachary Goudreau qui signe ce texte. Dans plusieurs écoles de la province, des techniciens en éducation spécialisés migrent vers l'enseignement dans l'espoir de doubler leur salaire et d'améliorer leurs conditions de travail. Une pénurie de personnel en exacerbe ainsi une autre, le tout au sein d'un réseau de l'éducation dont les élèves à besoins particuliers sont les grands perdants, constatent employés et syndicats qui pressent Québec de rendre le métier de TES plus attractif.
J'suis pas doué pour les problèmes relationnels, moi. Tout ce que je sais faire, c'est faire de la musique sur une guitare un peu usée en espérant que tu vas revenir. Mais baby, j'ai croisé ta mère, elle m'a dit que t'allais bien. T'as trouvé la paix, aussi un autre copain. J'vois que ça va de fou dans ma vie un peu moins. Mais t'en fais pas pour moi, mais t'en fais pas pour moi. De toute façon, je suis même pas sûr que t'écoutes. Moi qui pensais que ça me rendrait plus cool. Jouer de la guitare, c'est vraiment très surcoté. Tu penses que t'es une star, mais en réalité, je pense à toi même si c'est pas rationnel. J'suis pas doué pour les problèmes relationnels, moi. Tout ce que je sais faire, c'est faire de la musique sur une guitare un peu usée en espérant que tu vas revenir. Mais baby, j'ai croisé ton père, il m'a dit que t'allais bien. T'as trouvé la paix. Ça va de fou dans ma vie un peu moins. Mais t'en fais pas pour moi, mais t'en fais pas pour moi. On était assis quelque part en train de parler de la veille. Le vent soufflait dans les arbres, mon épaule collée sur sa tête. Puis elle m'a regardé dans les yeux, m'a dit que c'était dur à faire, mais qu'elle aimerait qu'on se sépare. Puis elle a disparu dans les airs. Je suis pas le meilleur dans les problèmes de cœur, mais j'ai ma guitare et ça suffit pour me faire sentir un peu mieux qu'hier. J'ai beau recroiser ta mère, ça changerait pas le cours des choses. Donc tant pis pour les roses. J'pense à toi même si c'est pas rationnel.
J'suis pas doué pour les problèmes relationnels, moi. Tout ce que je sais faire, c'est faire de la musique sur une guitare un peu usée, en espérant que tu vas revenir. Mais baby, j'ai croisé ton frère, il m'a dit que t'allais bien. T'as trouvé la paix, aussi un autre copain. J'crois que ça va de fou dans ma vie un peu moins. Mais t'en fais pas pour moi, mais t'en fais pas pour moi. J'pense à toi même si c'est pas rationnel. J'suis pas doué pour les problèmes relationnels.
Rationnel, une chanson de Fredz.
Merci Mathieu. Mots et expressions québécoises. Alors André, allez-y avec l'origine de quelques mots.
Alors je voudrais d'abord mentionner que le dictionnaire historique du français québécois m'a été vraiment utile pour rédiger cette chronique et aussi le site internet tlfq.org, trésor de la langue française au Québec. On débute avec le mot « liqueur ».
Prendrais-tu une bonne liqueur?
Une bonne liqueur.
Avec des chips.
Avec des chips. Vous allez voir d'où ça vient, ça, ce sens de liqueur qui est très québécois. On peut dire que dans l'usage courant au Québec et en France, liqueur, c'est un alcool sucré. Mm-hmm. On dirait un digestif aussi au Québec. Je ne suis pas sûr que les Français diraient ça. Hein, comme une bonne crème de menthe.
Blanche ou verte?
Non, verte. Verte.
Oui.
Autrefois, cependant, liqueur, ben, ça désignait toute boisson alcoolique. Parfois à l'exclusion du vin et de la bière, d'où l'appellation de l'ancêtre de la SEQ, la Commission des liqueurs.
Oui.
Non, mon père disait ça. Alors ça a eu lieu entre 1921 et 1961, la Commission des liqueurs, qui est devenue la Régie des alcools après, bien sûr. Au 19e siècle, une nouvelle expression donc apparaît dans le vocabulaire québécois où on parle de liqueur de tempérance.
Ah.
Ouais. Pour parler, et là je vous cite la définition, d'une boisson avec peu ou pas d'alcool, souvent sucrée et aromatisée, considérée comme stimulante, bénéfique ou réconfortante et vendue comme substitut aux boissons enivrantes. Voilà.
C'est pas une liqueur fine.
Non, c'est pas une liqueur fine. D'où l'emploi subséquent du mot liqueur, justement, pour désigner la famille des boissons gazeuses, comme le cola, le ginger ale, etc.
Un autre mot qui me fait rire. Champlure.
Ou champleur.
Oui.
Ouais, les deux se disent. Hein? C'est attesté au Québec, ce mot-là, depuis la moitié du 17e siècle à peu près, et ça a été remplacé peu à peu par robinet. Mais à l'origine, la champlure ou la champleur, ça désignait un robinet fixé à un tonneau pour faire couler le vin. Et ces deux formes-là sont des variations du mot chantepleur, qui est apparu en France au 16e siècle et dans lequel on reconnaît les verbes chanter et pleurer, justement pour évoquer le bruit et l'aspect du vin qui coule.
Oh,
c'est poétique. Hein?
Oui, il ne faut pas perdre ces mots-là.
Non.
Il ne faut pas s'épivarder.
Chante-pleur, non, s'épivarder. C'en était un autre que j'aime beaucoup, ça. S'épivarder, on le voit beaucoup pour dire s'amuser ou même lâcher son fou, c'est encore mieux. Mais ça nous vient là aussi des provinces de l'ouest de la France. Ça a été formé à partir du mot pivard, qui est une variante phonétique de pivert, qui est désigné anciennement le pivert d'Europe. Et de pivard est né le verbe se pivarder, pardon, lequel est devenu ensuite s'épivarder. Alors, c'était quoi le sens original de ce verbe-là? Eh bien, dans l'ouest de la France, s'épivarder, ça signifiait et ça signifie toujours faire sa toilette en parlant des oiseaux. Oui, s'épivarder.
Charmant.
C'est charmant, hein? Ça existe de façon similaire au Québec depuis la fin du 19e pour décrire justement l'action chez des oiseaux, surtout des poules, de se nettoyer les plumes avec le bec, s'ébrouer dans l'eau, se rouler dans la poussière. Et par extension, on l'emploie à propos d'autres animaux pour désigner le fait de s'ébrouer, de s'activer, de gambader, donc s'épivarder.
Eh bien, ça a plusieurs sens, finalement.
Oui, oui. Atoka. Aimez-vous ça, les Atoka, Hélène?
Oui, surtout dans le temps des fêtes. Surtout à l'Action de grâce aussi.
À l'Action de grâce, oui. Ça s'en vient, ça. Un mot qui nous vient de la langue Wendat, donc la langue parlée par les Hurons. Et les noms d'origine, c'était soit Atoxa ou Toka, transformé en Atoka par les colons français. Progressivement, c'est le mot canneberge qui s'est imposé au Québec, mais Atoka est toujours resté quand même.
As-tu ça des Atoka?
Des Atoka en canne. En passant, l'Atoka, donc, c'est aussi l'airel des marais. C'est plus son nom scientifique, l'airel des marais. Et c'est un fruit originaire d'Amérique du Nord et qui était déjà largement utilisé par les peuples autochtones depuis très longtemps. Quant à l'étymologie de canneberge, ça proviendrait d'un mot, en fait, d'une adaptation française du mot anglais cranberry. Hein? et qui lui-même provient d'un ancien mot allemand, Kranbier, un mot qui signifie littéralement « baie de grue », la grue l'oiseau, en raison de la forme de la fleur qui ressemble à la tête et au bec d'une grue.
Voilà. Et qu'on en apprend des
on
choses.
On apprend des choses, hein? Hélène, je ne veux pas vous décourager, mais dans 3 mois, ce sera le 23 décembre.
Déjà?
N'est-ce pas? Alors, pourquoi pas vous parler de mon prochain mot, la guignolée? Plusieurs hypothèses circulent quant à l'origine de la guignolée, du mot et de la guignolée elle-même. Il faut presque remonter dans la nuit des temps pour la plus plausible, je dirais. Alors, à chaque nouvelle année, lors de la cueillette du gui sur les chênes des forêts sacrées, les druides gaulois utilisaient un cri de réjouissance qui voulait dire « au gui l'an neuf ». Et selon les dialectes, les termes « aguilanleu », « guiané » ou « guilanleu » étaient utilisés et au fil des transformations de la langue, c'est devenu le mot « guignolé ».
Et non, guilon, guilon là,
guilleluron.
Guilleluron.
Non, ça c'est autre chose. Voilà.
Ici, Bobette.
Babette, toujours employé au pluriel. Hein. C'est apparu dans le vocabulaire de la mode durant les années 1920, d'abord pour référer aux jeunes femmes qui portent les cheveux courts, on disait à la garçonne à l'époque, puis au type de culotte qu'elles portaient. Et c'est passé de mode.
Et de genre,
sans jeu de mots. Oui, et c'est revenu, ça, dans le vocabulaire dans les années 70 pour parler, comme encore aujourd'hui, de façon familière, des sous-vêtements, aussi bien féminins que masculins.
OK, je pensais que c'était plus masculin.
Non, on dit bobette ouais. aussi pour une femme.
Et on dit bidou pour tout le monde aussi.
On dit bidou au pluriel, là aussi. Ça nous vient d'une ancienne monnaie utilisée en France autour du 15e siècle qui s'appelait le bidet. Rien, ah. à voir, rien à voir avec l'appareil
Mais non.
pour se nettoyer. Bidou au singulier, hein, c'est plus Bidou la loge, mais bon.
Ah, c'est un personnage.
Ça, c'est
hein?
un personnage des belles histoires des pays d'en haut. Il faudrait savoir pourquoi on l'appelait Bidou. Ça, c'est un autre parlement, je ne sais pas.
Ben, ça n'avait pas un lien avec le fait qu'il soit un gros joueur?
Oui, oui. Il semblerait que c'était un gros joueur.
Il aimait peut-être. L'argent, il aimait les bidous.
Il aimait les bidous comme Séraphin, mais je pense que lui, il dépensait plus.
Et puis, on y va avec quelques expressions maintenant,
ouais,
André.
Oui, oui. S'en ficher comme l'an 40.
Oui, ça vient d'où, ça?
1740, pas 1940. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1740? Ben, il y a des gens qui auraient commencé à répandre une nouvelle à l'effet qu'il y a des événements terribles qui se produiraient cette année-là. C'est arrivé souvent, ça, dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, la prédiction s'est avérée tout à fait fausse.
Comme nous avec l'an 2000.
Exactement.
Le bug de 1740.
Le bug de 1740. Et c'est pour rire des personnes qui s'étaient agitées inutilement que les colons de l'époque ont créé la fameuse expression « on s'en fiche comme l'an 40 ».
Ah, qu'on utilise encore aujourd'hui.
Qu'on utilise encore, c'est resté.
Un temps de cochon.
Un temps de cochon. Je trouvais ça très curieux. Alors, lorsqu'on tuait un porc autrefois, une des méthodes de conservation, c'était la mise au saloir. C'était la plus connue. Puis pour favoriser la prise de sel, ça prenait idéalement un temps froid et humide. Donc, on tuait le porc tard l'automne par un temps de
cochon.
Voilà, des belles pluies froides de fin novembre. Là. C'était idéal. Temps de cochon. Ne pas être dans son assiette. Ça, c'est avant l'invention de la vaisselle plate qui a eu lieu à peu près début 16e. Ça référait strictement à la position d'une personne à ce moment-là, le mot « assiette », à sa manière d'être posée. On emploie encore ce sens-là aujourd'hui pour parler de l'assiette d'un cavalier sur la selle de son cheval ou par extension de l'assiette d'un avion en vol. Donc, ne pas être dans son assiette, c'est être mal placé au sens figuré. Nos cousins français disent être à côté de ses pompes. Vous avez déjà entendu ça? C'est un peu le même sens, là, d'être... Voilà. Pas être dedans.
OK. Parce ouais. que souvent, on dit « j'étais pas dans mon assiette ». C'est plus une question de « ouais, tu sais, c'est ça, j'étais pas bien ».
Oui, c'est ça. On là, sent, ouais,
j'avais
c'est,
des problèmes gastriques ou
ça devient physique. Ça devient physique. On se sent un peu croche, ouais. un peu à côté de la plaque.
Voilà. À côté de ses pompes, justement, comme disent pompes. Les cousins français.
Tout à fait.
Il en reste deux expressions, André.
Être dadon. Ça, j'aime ça.
Oui.
Ça vient de Charlevoix puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le mot « adon » à l'origine, ça provient des parlers du nord et de l'ouest de la France. Employé seul, « adon », c'est le hasard ou la coïncidence. Dans le cas présent, être dadon, ça peut vouloir dire deux choses. Soit pour parler de ce qui est approprié et opportun, donc quelque chose qui est ou qui n'est pas dadon, ou pour décrire une personne qui s'entend facilement avec autrui, qui est d'un abord facile, aimable, serviable.
Comme nous.
D'un commerce agréable. Ça, j'aimais ça aussi, d'un commerce agréable.
Il est, comme oui, nous. Elle est de commerce agréable.
Voilà. Et en terminant, mettre au pied du mur. Mettre au pied du mur, une expression qui nous vient de l'escrime, où celui qui a poussé son adversaire jusqu'au pied du mur lui a enlevé tout moyen de reculer, de sorte qu'il soit obligé soit d'abdiquer ou de riposter, mettre au pied du mur.
Ça vient de l'escrime.
Ça vient de l'escrime.
Bien, nous voilà plus instruits grâce à vous. Merci beaucoup, André Lacombe. On va se retrouver quelque part au mois d'octobre.
Oui, voilà.
Portez-vous bien.
À bientôt.
De Camelot d'un jour qui revient cette année pour sa 9e édition aujourd'hui même, une journée qui rassemble de nouveau une trentaine de personnalités publiques qui endossent le rôle de Camelot afin de sensibiliser la population à la mission essentielle de l'organisme par la vente du magazine L'Itinéraire. Parmi les participants, Chantal Lamarre, Danny Turcotte, Emmanuel Schwartz qui fait la une du nouveau numéro de L'Itinéraire, Guy Jodoin, Joanne Despins, Martine Franck, Patrick Lagacé, Mathieu Dugal, Pierre-Luc Briand, Vanessa Duchel, Yves Pépeltier et bien d'autres. Depuis sa création en 1994, L'Itinéraire permet à des personnes en situation d'itinérance ou de grande vulnérabilité de gagner dignement leur vie, tout en offrant un regard unique sur des enjeux sociaux importants. Camelot d'un jour, c'est une occasion exceptionnelle de faire connaître cette démarche et d'appuyer concrètement ces personne. Camelot d'un jour, c'est la rue qui rencontre le grand public. Aujourd'hui, 23 septembre, chaque coin de rue devient un château de solidarité. C'est ce que dit Luc Desjardins, président directeur général de L'Itinéraire et éditeur en chef du magazine. Et pour une 4e année consécutive, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, est le partenaire hôte de l'événement. Camelot, personnalités et bénévoles se retrouveront à la grande bibliothèque de BANQ tout au long de la journée.
La nuit nous filme dans le noir. le feu dans ma tête. L'hiver survit sur nos cas. Et moi, chasse les ombres sous la serre. Allons voir où tu veux. C'est trop quand ira mieux. Couler dans nous, même s'il ne restera pas fait. On ira voir où on veut. Croire encore d'être heureux. Se rouler en ce rêve immobile. Seul, je cesse de nous retenir. Éteins le ciel, il se fait tard. La lune n'est plus qu'un objet dans les airs. L'horizon vacille devant, le jour se dessine. Allons voir où tu veux. C'est trop quand ira mieux. Rouler en nous, même si nous restons pas faits. Être quand ira mieux, rouler à nous, même s'il nous reste trop à faire.
Rouler en où? En nous. Bobby Bazzini.
Oui, comme le mois d'août. Et c'est tiré de son album Seul au cinéma, un album en français. Alors, Bobby Bazzini renoue avec sa langue maternelle pour notre plus grand plaisir. Lui qui a du talent en français, en anglais, mais en français, c'est très agréable. Lui qui donnera plusieurs spectacles, on aura l'occasion d'y revenir. Pour tout de suite, on joint Michel Poitevin. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Pour la chronique économie, Michel, vous êtes professeur à l'Université de Montréal. Et puis aujourd'hui, à la chronique de la semaine dernière, ça sonne bizarre, mais la semaine passée, on annonçait des décisions de taux d'intérêt tant au Canada qu'aux États-Unis. Vous vouliez y revenir. Que s'est-il passé exactement?
Ben oui, il n'y a pas grand-chose sur la planète économie dans les derniers jours. Alors, j'ai pensé peut-être faire le point sur ce qu'on avait commencé la semaine dernière. La chronique était avant la décision de taux d'intérêt de la Banque du Canada et également celle de la Banque fédérale américaine. Alors, au Canada, on en avait parlé, tel qu'attendu, le taux directeur a baissé d'un quart de point. Le taux de directeur est maintenant à 2,5 % au Canada. Ce qui a motivé la Banque centrale, c'est que l'inflation semble sous contrôle à 1,9 % sur une base annuelle pour le mois d'août. Puis juste pour le mois d'août, l'inflation, en fait, avait été négative à -0,1 %, puis c'est surtout les prix d'énergie qui avaient baissé. Alors, on a l'impression que l'inflation est sous contrôle au Canada. Puis l'économie ralentit. Le PIB s'est contracté au deuxième trimestre. Là, il y avait eu une décroissance, en fait, de 0,4 %. Alors, tout ça a incité la banque à baisser les taux de façon prudente parce qu'il y a l'incertitude sur les tarifs et la politique commerciale américaine. Puis aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a un budget fédéral qui s'en vient cet automne. Puis certains commentateurs anticipent un très lourd déficit. On a même parlé d'avancer 100 milliards de dollars, ce qui est énorme. Puis un budget qui a un gros déficit comme ça, ça peut créer de l'inflation. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement fait un déficit, c'est qu'il dépense beaucoup, mais quand il dépense beaucoup, il achète des biens et services. Et puis si l'offre, les entreprises ne sont pas capables de fournir toute cette demande supplémentaire par le gouvernement, bien, ça peut créer de l'inflation, les prix augmentent. Alors, la situation est assez stable au Canada. Et puis là, les taux ont baissé un peu. On anticipe peut-être une autre baisse de taux d'ici à la fin de l'année. On verra à la prochaine décision. Mais je pense que le diagnostic de la banque est bon. L'inflation semble maîtrisée, puis la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est une baisse de taux était bienvenue.
Et on sera attentif. Le budget fédéral sera déposé le 4 novembre prochain. Pas le SCAT, le SCAT, comme disait M. Chrétien. Et aux États-Unis, Michel?
Non, aux États-Unis, la situation est un peu différente. On a aussi baissé les taux d'un quart de pourcent, là, mais ils sont quand même plus élevés que chez nous. Donc, on est plus autour de 4% le taux directeur aux États-Unis. Alors, chez nous, c'est 2,5%. Puis l'inflation est pas mal plus élevée aux États-Unis. Hein? On a eu 2,9% sur une base annuelle encore pour le mois d'août, alors qu'en juillet, c'était 2,7%. Donc, il y avait une petite hausse. Puis seulement pour le mois d'août, les prix avaient augmenté de 0,4%. Bon, c'est juste un mois, mais 0,4%, si on multipliait par 12, parce que ça, c'est juste pour le mois d'août, si on multipliait par 12, on arrive tout près de 5%. Alors, l'inflation est encore élevée, puis les attentes d'inflation, là, j'ai trouvé des chiffres sur les attentes d'inflation des consommateurs. Ça, c'est quoi? Bien, on demande aux gens, vous pensez que les prix vont augmenter de quoi dans la prochaine année? On fait des sondages, et puis les consommateurs s'attendent à ce que les prix augmentent de 3,2%. Donc, ces attentes-là, elles-mêmes nourrissent l'inflation parce que si les gens s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup d'inflation, bien, quand ils vont faire des demandes salariales, ils vont demander des salaires plus élevés. Les entreprises vont payer des salaires plus élevés, donc elles vont augmenter leurs prix pour compenser les coûts supplémentaires. Puis vous voyez que ça peut alimenter une espèce de spirale inflationniste. Donc, il y a un risque qui est relativement élevé. Puis en même temps, la croissance est au rendez-vous aux États-Unis, là. Au deuxième trimestre, il y avait une forte croissance de 3,3% sur une base annuelle, donc c'est très fort, alors qu'au premier trimestre, il y avait eu une contraction d'un demi pour cent. Alors, l'économie américaine là, est très résiliente, là, malgré les tarifs. La croissance est au rendez-vous, l'inflation est relativement élevée, donc cette baisse de taux-là, faut y aller avec prudence. Là. Puis on sait que le président Trump met de la pression pour les baisser encore plus, parce que la Fed va résister à la pression politique, ça va être à suivre. Peut-être juste une petite note, là, la baisse de taux de 0,25%, c'est voté par l'ensemble des gouverneurs ou sous-gouverneurs de la Banque fédérale américaine. Puis ça a été presque unanime. Il y a un seul gouverneur qui a voté contre, puis c'est Stephen Miron, qui vient d'être nommé par Trump. Ça a été avalisé par le Sénat, sa nomination. Et puis, bon, Trump l'a mis là parce qu'il voulait que les taux baissent plus vite. Lui, il a voté pour avoir une baisse plus importante, mais la majorité l'a emporté. Là, les autres se sont contentés d'un quart de pourcent. On veut être prudent. On ne voudrait pas que l'inflation reparte aux États-Unis. Donc, ça va être à suivre. Puis peut-être juste annoncer possiblement la chronique de la semaine dernière. Une autre chose que...
Annoncer la chronique de la semaine dernière?
Wow. Moi aussi, je fais des lapsus.
C'est drôle.
Dernière, écoutez, oui. Désolé. Donc, la semaine prochaine, plutôt. Aux États-Unis, on a une loi qui plafonne la dette à un certain niveau. Puis périodiquement, on a déjà vécu ça dans le passé. On est obligé de dépasser le plafond légal de la dette. Et puis là, ben, il y a des négociations politiques, le tiraillement politique entre les démocrates et les républicains. Et puis, il y a une échéance qui arrive à la fin septembre. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que d'ici la fin de septembre, on pense dépasser le plafond, mais pour le dépasser, il faut qu'il y ait une loi qui est votée. Puis ça prend une certaine coopération des démocrates, là, même si les républicains contrôlent les chambres, ça prend une majorité plus importante. Et puis, si on n'est pas capable de s'entendre pour rehausser le plafond, bien, il peut... le gouvernement peut cesser plusieurs paiements et activités là, parce qu'on doit respecter ce plafond de la dette. Alors, ça va être à suivre la semaine prochaine. Je vais peut-être terminer rapidement. Tylenol, peut-être vous en avez parlé. Là.
Un peu, oui.
Bon, c'est ça. Alors, on sait qu'apparemment, ça cause l'autisme. Et puis, je voulais juste dire que l'action de Kenvu, qui est la compagnie qui possède Tylenol, a perdu 7 % hier et a repris un peu du poil de la bête ce matin, mais là, ça rebaisse encore. Là. Mais il y a une partie des pertes d'hier qui ont été épongées.
Okay. Alors, il y en a qui ont monté à l'hameçon.
Oui, mais en même temps, le marché anticipe. Là, s'ils pensent que les gens vont croire Trump, ben il y a mieux vendre l'action. Ils disent ben ils sont pas aussi rentables, puis on va se débarrasser de l'action. Donc, je pense que c'est un peu ça qui...
C'est le raisonnement.
Qui se passe. Oui, c'est ça.
Michel Poitvin, je rappelle que vous êtes à l'Université de Montréal. Vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal et on se retrouve, j'allais dire, la semaine passée.
La semaine prochaine.
La
semaine dernière.
Ah oh non, mardi prochain, on est en congé.
Ah, OK. Bien, à l'université aussi, effectivement, il n'y a pas de cours mardi prochain, donc il n'y aura pas de chronique.
Mais ce n'est pas vraiment un congé, mais c'est une journée où... On va se recueillir puisque c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il n'y aura pas d'émission. Merci, Michel. Donc, à mardi 7 octobre.
Dans deux semaines. Très bien. Au revoir.
C'est clair. Bye-bye.
Swipe à gauche, turn à droite, split une fois de plus pour arriver. T'en fais trop, pas assez, tu sais plus, t'es encore essoufflé. Petite rose est toujours pressée. Toujours sur la go, partout en même temps, les yeux bandés. Une chose est sûre. Choisis tes combats, choisis tes désirs. On t'a mis dans la tête tout un tas de oui-dire. On t'a mis au monde, on t'a façonné pour que tu ressembles à tous ces et celles que t'as croisées. Une femme de cire. J'ai besoin d'une main qui se rapproche sans détour. Un bail que je sens que les couches. J'écoute de la musique pour me sentir comprise. Ou bien de complice, c'est complice. Mais écoute-moi, j'ai des choses.
Collaboration de Rosel et Thaïs, c'était la chanson « Assez ».
À partir de demain, et ce jusqu'au 4 octobre, le Festival international de la littérature, le FIL, revient pour une 31e édition, plusieurs événements, une soixantaine, beaucoup d'artistes, autour de 200, programmation très riche. Et pour en parler, j'accueille avec grand plaisir Michèle Corbeil, qui est directrice artistique et co-directrice générale du FIL, qui est au bout du fil. Bonjour, oui. Madame Corbeil.
Bonjour, Hélène.
Alors, bonjour Michel, on va se prénommer parce que c'est pas la première fois qu'on parle ensemble. On va se parler.
Non, c'est pas la première fois, tout à fait.
Très bien.
C'est un plaisir toujours pour moi de retrouver à chaque année vos auditeurs et auditrices.
Oui, vraiment. C'est une tradition. Alors Michel, vous signez cette année. Est-ce que c'est votre 31e programmation?
C'est pas ma 31e, je dirais que ça doit être. Par contre, je suis là depuis les tout débuts. Mon début du festival, c'était le festival de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Ça s'appelait le Festival de la littérature. Et pendant les premières années, j'étais plus coordonnatrice et directrice des communications, mais très rapidement, je suis devenue directrice artistique. On va dire que peut-être que ça fait, c'est peut-être ma 26e programmation, quelque bon. Chose comme ça.
Vous avez du métier. Et quelles étaient les intentions, vos intentions pour cette édition 2025?
Écoutez, je dis toujours à chaque année que j'ai pas de, je pars pas avec une thématique. Vous savez, je dis toujours que le film, c'est un peu ma bibliothèque. Ça veut dire à la fois des livres que j'ai déjà lus, que j'ai envie de faire redécouvrir, mais aussi des découvertes de l'année. Je pense entre autres au livre de Nathalie Platt.
Ouais.
Vous savez, qui Mourir de froid, c'est beau, c'est délicieux. J'ai toujours, comme je me rappelle plus toujours de l'ordre des mots, mais qui est un livre absolument magnifique et m'a fait lire Véronique Côté. Et Véronique Côté qui va faire la lecture spectacle de ce livre-là. Ce livre-là, c'était un vrai coup de cœur.
Est-ce qu'il reste des billets pour parce que c'est un événement, là?
Oui, c'est un événement. C'est une lecture spectacle qui va avoir lieu à la salle Claude Léveillé avec Véronique Côté et accompagnée du musicien Laurier Rajotte. Mais quand je vous dis que j'ai pas d'intention, c'est dans le sens que c'est beaucoup plus ce côté-là, finalement, qui fait en sorte que je construis une programmation. Je fais comme je vois des livres, il y a des gens qui me font lire des livres, qui me font lire des romans, des essais. C'est sûr qu'il y a toujours, il peut y avoir aussi de l'actualité. Je pense à Gaza, écrit Gaza. Ce qui se passe en Palestine dans le moment me touche profondément. Et je me disais, comment j'ai téléphoné à Yara El-Kaban, qui est l'éditrice chez Mémoire d'Encrier. Et je lui ai dit, ben écoute, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate, je ne suis pas une femme politique. Ce que je sais faire, c'est des spectacles littéraires. Et elle m'a dit, c'est déjà très bien. Et ce qui fait qu'on fait un spectacle littéraire où on entend des textes écrits par des jeunes écrivains palestiniens, lus par des écrivains d'ici. Et ça me rend heureuse de faire ça, parce que je pense que c'est important de le faire présentement. Voilà. C'est un peu comme ça que se construit. C'est avec des rencontres, des livres, un petit bout d'actualité. Tout ça se construit comme un peu comme un casse-tête.
Nathalie Platt, le livre dont on parlait, c'est « Mourir oui. de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux ».
Voilà.
Ce sont des paroles d'une chanson de Richard Desjardins. Je l'ai lu et je comprends votre émotion et votre envie de mettre cette œuvre de l'avant. Et concernant le spectacle littéraire autour de Gaza, vous disiez que, bon, vous vous sentiez un peu impuissante, mais la littérature, selon vous, Michel Corbeil, c'est un outil pour... penser les plaies pour réfléchir sur l'histoire?
Je crois que oui. Je pense que la littérature, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu un peu notre visuel de cette année, cette femme qui tient un livre contre son cœur.
Oui.
Et je pense que la littérature permet, en tout cas, d'accomplir notre devoir de mémoire, peut permettre, de penser des plaies, permet de se retrouver. Je pense entre autres, il y a un autre spectacle qu'on fait qui s'appelle Fouiller les décombres de Flavia Garcia, qui est autour de tout ce qui s'est passé en Argentine, la dictature et bon tout ce qu'il y a pu avoir comme drame dans ce pays. Elle porte finalement cette blessure un peu comme les Autochtones peuvent le vivre aussi avec ce que leurs parents ont vécu dans les pensionnats. Flavia n'a pas vécu la dictature, mais elle porte cette douleur en elle et elle la raconte dans ce spectacle. Et moi, ça, je trouve ça important. Je trouve ça important. La littérature n'est pas que divertissement. Elle peut l'être, mais ça peut être aussi un moyen de toucher les gens, de les faire réfléchir. Et je pense que, oui, la littérature, pour moi, ben, c'est, vous savez, pour moi, c'est le centre de ma vie.
Oui.
Je veux dire, je ne peux pas vivre sans les livres. Ça fait partie de moi depuis toujours.
Le fil va s'ouvrir sur un cabaret littéraire et musical qui s'intitule oui. « Demain, l'amour ». Pouvez-vous oui. nous en dire quelques mots?
Ben écoutez, ça, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que j'ai, je pense que c'était l'hiver dernier, j'ai trois jeunes qui sont venus s'installer devant moi pour me parler de ce spectacle-là et en me disant, en me parlant de leur amour de la poésie, de leur amour de la chanson québécoise et tout. Et là, soudainement, je me suis souvenue pour les gens un peu plus âgés, d'un spectacle très important dans l'histoire du film, qui s'appelait Poésie Sandwich et autres soirs qui penchent.
Oui, le projet de Louis Moffett, oui.
Exactement. Et je me suis souvenue de Louis venant me parler de son envie de faire un happening poétique. Et là, j'avais devant moi les héritiers, finalement, de Louis Moffett. Et là, je les ai regardés. Et j'ai trouvé tellement beaux, ces jeunes-là. Et je leur ai dit, vous n'auriez pas envie de faire l'ouverture du festival? Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ben non, on n'en demandait pas tant. J'ai dit, oui, oui, on va faire une grande fête, un grand happening. Alors, c'est tous des textes écrits par des poètes québécois. Leur choix de texte est extraordinaire, sur l'amour. Et parce qu'ils me disaient, on croit, Michel, que dans le moment, on a tous bien besoin d'entendre parler d'amour. J'ai dit, je suis bien d'accord avec vous. C'est une autre façon aussi de penser des pleurs, de parler aussi d'amour. Alors, il y a des textes autant de Clémence Desrochers, de Marie Huguet, mais de jeunes collègues comme Marjolaine Beauchamp, de vraiment toutes générations confondues. Ils sont extraordinaires. Et on fait, c'est ça, cette, je suis très, très heureuse de faire ça, de donner cette place-là à la relève pour inaugurer un festival qui est finalement ouvert à toutes les générations. Donc, on commence avec eux. Et puis, non seulement on fait ça, mais en plus, on va danser après.
Ah oui. Donc, ah oui, oui, un vrai party, une fête.
Un vrai party. Donc, on écoute des poèmes d'amour, des chansons d'amour, et puis après ça, on tasse les tables et on danse.
Et ça se passe où, cet événement-là?
Au Lion d'Or.
Au Lion d'Or. Ah oui, sur Ontario.
Oui, qui est aussi, pour moi, vous savez, quand je vous disais, moi, je suis là depuis les tout débuts du festival, il y a 31 ans, le spectacle d'ouverture du festival avait lieu au Lion d'Or. Donc, il y a quelque chose, pour moi, je suis très, très attachée à cette salle-là, et je trouve ça bien aussi de commencer là. Il y a comme quelque chose au niveau de la transmission qui est quand même très
oui.
importante pour moi.
C'est,
voilà.
C'est symbolique, c'est un endroit tellement beau, on se sent dans une autre époque quand on fréquente
oui.
le Lion d'Or. Et souvent, vos spectacles, les spectacles qu'on peut voir, les spectacles littéraires là, qui sont programmés au fil, mêlent la musique, la danse, la
oui.
photographie, le théâtre. C'est essentiel pour vous, cette espèce de décloisonnement?
Oui, parce que, vous savez, moi, je dis toujours... et ça, c'est vrai, depuis les tout débuts du festival, on a toujours fait ça. Et pour moi, je me dis toujours que les gens qui aiment la danse, les gens qui aiment le théâtre, les gens qui aiment la photo, les gens qui aiment la musique, l'opéra, la chanson et tout, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas les livres, qu'ils n'aiment pas la littérature. Alors, pour moi, ça a toujours été une façon un peu comme en me disant, bon, ils vont penser qu'ils viennent voir un spectacle de danse, puis finalement, je leur remplace une petite vic, et puis je leur propose un texte, et finalement, ils vont avoir envie de lire ce texte-là, de découvrir cet auteur-là. Ça a toujours été un peu mon idée en faisant ça. Puis il faut dire que les gens qui sont de d'autres disciplines, qui participent au festival, sont tous des amoureux de livres, quand même, des gens qui aiment beaucoup, beaucoup.
Oui, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts pour les attirer.
Vous savez, avec des metteurs en scène comme une Brigitte Henkens.
Que je reçois, d'ailleurs, jeudi.
Oh, écoutez, je vais la laisser vous parler de ce projet-là qui, pour moi, est comme... Je suis tellement, tellement heureuse que Brigitte fasse ça. Puis, vous savez, comme Brigitte Henkens, juste un exemple, c'est que Brigitte, pour moi, c'est certainement une des plus littéraires de tous nos metteurs en scène, finalement.
Ouais.
Brigitte, c'est comme quelqu'un pour qui la littérature est très, très présente. Alice Ronfard, la même chose. Alice, c'est vraiment comme, depuis toujours, il faut dire qu'avec sa mère, Marie Cardinal, avec son père, Jean-Pierre Ronfard, et tout ça, et là, de voir que là, elle fait un spectacle avec son fils, Jules Ronfard, il y a quelque chose qui est très beau aussi là-dedans. Mm-hmm.
Alors, Brigitte Henkens, le projet auquel elle est associée, c'est Une famille à Bruxelles, avec Monique Spaziani, qui est sur la scène. Et est-ce que vous avez un coup de cœur, question un peu cliché, là, mais le spectacle qui vous fait le plus plaisir, celui pour lequel vous avez, donné tout votre cœur là, pour que ça se réalise?
Ah, écoutez, j'ai envie de vous dire que chacun de ces spectacles-là, il y en a un que je trouve quand même très, très beau, c'est la rencontre entre Angelo Bersetti et Louise Bédard. Parce que ces deux-là, quand même, ils sont proches de 70 ans, quand même, soyons honnêtes, là,
ouais.
c'est plus ma génération. Et c'est le premier spectacle d'Angelo Bersetti. Angelo, qui était connu d'ailleurs plus comme photographe, comme maquilleur, comme concepteur de... Il a travaillé avec tous les grands chorégraphes, avec tous les metteurs en scène. C'est d'ailleurs lui l'affiche du festival, Louise Bédard, qui est une danseuse extraordinaire. Et ils font un spectacle. J'ai assisté à la répétition de ce spectacle-là. C'est d'une beauté de voir ces deux grands, grands, grands artistes sur scène avec toute la complicité, parce qu'ils se connaissent depuis plus de 30 ans tous les deux. Ils ont travaillé à partir de textes écrits par des poètes de plusieurs générations. Louise danse comme si elle était une jeune fille. Elle est tellement belle. Et puis, la lecture par Angelo, c'est extraordinaire. Moi, je lui dis, mais Angelo, j'ai toujours aimé tes photos, j'ai toujours aimé tes conceptions de théâtre et tout ça. Mais je savais pas que tu étais un grand lecteur. Je savais qu'il était un grand lecteur solitaire, mais lecteur sur scène.
Ah oui. Alors, vous me donnez vraiment envie d'aller voir ce spectacle et de découvrir aussi tout. Oui, on sent votre emballement, votre enthousiasme, Michel Corbeil, directrice artistique et co-directrice générale du FIL. Ça passe vite, mais je vous souhaite un beau festival, une belle 31e édition. Festival-fil.qc.ca. Merci encore, Michel.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
C'était Au quotidien avec Hélène Denis.
Voyage, voyage de Désirless.
Toujours bon, hein, cette chanson. Anne-Marie Aubin est au bout du fil. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous avez lu et aimé Recueillir, c'est un beau titre aussi, de Louise Warren, publié aux éditions du Norrois.
Oui, c'est un recueil de 136 pages avec en page couverture des belles fleurs qui nous invitent justement à cueillir. Et justement, c'est le thème cueillir, recueillir dans, à travers ces textes-là. J'ai déjà parlé de Louise Warren il y a 2 ans, le 12 septembre 2023. Elle avait fait paraître une espèce de coffret avec des fiches. Ça s'appelait un atelier mobile de lecture et d'écriture qui s'appelait Vivace et à partir duquel on pouvait créer, réfléchir. En tout cas, c'était très intéressant. Ça visait finalement à animer des ateliers d'écriture ou à soi-même écrire chez soi. Mais depuis, bon, j'ai lu d'autres livres de Louise Warren et c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans de métier. Donc, elle a publié de nombreux livres. Et puis, elle est une personne qui va aussi dans les arts visuels, qui s'intéresse à d'autres types d'écriture, dont l'essai. Et ce livre-là, c'est un peu hybride parce qu'à la fois l'essai et la création dans la deuxième partie, qui est particulièrement des vers de la poésie. Alors, de quoi il est question? Il est question du processus de création. Je dirais que c'est comme ça que je pourrais résumer ça. Là, j'ai été voir dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, recueillir? Ça veut dire prendre en cueillant ou en ramassant pour utiliser ultérieurement. Alors, rassembler des textes dans un recueil, c'est un peu ça ce qu'elle fait. Et je la cite, recueillir des matériaux et se recueillir vont de pair. Et j'aime que l'on parle d'un recueil de poésie. Alors, dans les moult sujets dont il est question dans ce livre-là, il y en a deux que j'ai retenus particulièrement. La citation. Est-ce que vous, Hélène, quand vous lisez, vous citez des passages de ce que vous avez lu?
Si je cite des passages que j'ai déjà lus à d'autres personnes?
Non, dans des cahiers, dans des carnets, sur du papier. Des
si fiches. Je les note, si je les prends en note.
C'est ça, bon.
Oui,
ben,
oui, je fais ça, ça m'arrive.
Elle fait ça beaucoup depuis toujours, depuis ses études. Finalement, au début, c'était avec des fiches.
Est-ce que vous faites après ça, Anne-Marie?
Ah oui, absolument, ouais. Parce que avec tous les livres que je lis, j'ai besoin, c'est même maniaque chez nous un peu, là. Et c'est vrai que quand j'étais jeune à l'école, on nous faisait faire des fiches. Puis là, elle transpose tout ça dans des carnets, puis elle se met à découper dans des revues. Alors, ces livres deviennent aussi des collages, et ça, c'est ses sources d'inspiration. Là, on peut se demander, mais pourquoi on cite, hein? Pourquoi vous citez, vous notez des citations?
Bien, ce sont des phrases qui nous nourrissent, qui nous inspirent, qui nous apprennent des choses, qui sont belles.
Des fois, c'est des phrases qu'on aurait voulu écrire, vraiment, c'est beau.
Juste
ça nous touche personnellement. Et moi, à travers tout ce livre-là, j'ai fait moult citations parce que je ne suis pas une poète qui a publié de la poésie. J'ai publié dans ma vie, mais des choses pour les jeunes, surtout. Et le livre, j'avais l'impression de me retrouver dans tout ce que je lisais. C'est drôle, hein, mais je pense que peu importe ce qu'on crée dans la vie, quand on est dans la lecture et l'écriture, on se retrouve parent. Alors elle explique finalement à quoi ça sert, ça, de tout noter ces choses-là. C'est ça qu'elle va cueillir en retrouvant ces livres-là. C'est comme les archives de ses lectures. C'est comme une bibliothèque mobile, selon elle. Et elle dit... Qu'elle a commencé comme ça, en citant des choses, puis que finalement, la citation, c'est les mots de l'autre, celui qui nous inspire, qui nous touche, celui qui ressemble à ce qu'on voudrait être, ça fait image. Elle dit que c'est comme un titre donne une piste de lecture dans un livre. Ben, un carnet de citation, c'est un peu la même chose. Et je la cite, elle dit « J'entre en littérature par la lecture, la déchirure de papier, la citation, le collage, ce qui a tout à voir avec l'assemblage de fragments. On écrit avec les mots des autres, encore plus souvent dans l'essai, quel qu'il soit. » Effectivement, un essai, c'est une réflexion sur un sujet donc qui nécessite d'avoir lu beaucoup. Alors elle dit que dans sa bibliothèque, les livres sont tous serrés les uns contre les autres, puis on les rend endormis. Puis elle, et je la cite, elle dit « Il suffit que j'en ouvre un en allant droit à une citation et il redevient actif. Chaque fois, des parties de moi s'éveillent, comme si une citation venait exciter les terminaisons nerveuses et produire un état jubilatoire. » Alors oui, c'était des souvenirs de lecture. Si on a cité, qu'on a souligné, qu'on a collé, ces mots-là nous habitent. Et quand on veut créer, il faut se nourrir. Et souvent, c'est en retournant à ces mots-là qu'on est inspiré. Moi, la deuxième chose qui m'a beaucoup marquée dans ce livre-là, même si ce n'est pas le sujet principal, c'est l'enfance. Parce que tous les auteurs vont dire que l'enfance, c'est ce qui nous marque le plus quand on veut écrire plus tard. C'est comment je dirais ça? C'est le début de tout. Alors elle raconte à travers différents passages des événements qui sont, à mon avis, marquants. Exemple, elle n'avait pas de chambre avant d'avoir 10 ans. Elle dormait sur le palier de l'escalier. Et ça, beaucoup de gens m'ont raconté ça dans les grandes familles. Tant qu'il n'était pas très grand, il y avait un petit lit là, qui n'était pas très large. Et puis les gens, le plus jeune, dormait là jusqu'à temps qu'il y ait une chambre qui se libère.
Comme un chat.
Alors, elle, c'est ça. Oui, elle, c'est son cas, mais en même temps, c'est le vide, l'escalier. Il n'y a pas de mur. Alors, ça peut être un peu traumatisant pour un enfant. Alors, elle raconte que comme elle n'avait pas une chambre à elle, comme dirait l'autre, ben finalement, elle était face à ce vide-là. Puis toute petite, elle a appris à meubler la future chambre qu'elle aurait un jour. Et je la cite, elle dit « Cette chambre existe dans ma tête. Je l'imagine, la décore, lui dépose les jouets des petites filles modèles. » Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Donc, référence à une littérature pour la jeunesse. Elle parle aussi d'Alice, qu'elle dit, qui est son alter ego. Puis elle dit que, bon, ben, dans ses rêves, elle va mettre des petits rideaux dans cette maison-là, un jardin, il va y avoir une fontaine. Et elle dit, des fées sortent des tiroirs, traversent les miroirs, des fées entrent dans les livres. Donc, tout l'imaginaire de ses lectures habite cette chambre imaginaire avant qu'elle finisse par en avoir une.
Le manque est souvent créatif.
Exact, Louis. Puis ce vide-là, on le comble souvent avec l'imagination. Et bon, quand on lit aux enfants puis qu'on ouvre un album, c'est tout un univers qui s'ouvre. Hein? Alors, je la cite encore quand elle dit que devant, du plus loin que je me souvienne, l'album pour enfants constitue un théâtre que j'anime de mes propres images. Derrière un livre ouvert, je me sens protégée. Le livre comble l'espace d'une chambre avec des murs, une porte à moi. Donc, le vide du palier d'escalier, quand on ouvre un livre, ben, c'est comme si on se faisait un petit théâtre. Et les enfants aiment se faire des petites maisons avec souvent des coussins, des meubles, ouais, pour finalement se sentir sécure dans cet espace-là. Un autre événement de son enfance, sa grand-mère est décédée le jour de son anniversaire.
Oh non!
Alors, à chaque fois que c'est son anniversaire, sa mère lui rappelle le décès de sa grand-mère avant même de lui souhaiter bon anniversaire.
Le 21 mars, donc.
Oui, le 21 mars, à chaque année, c'est le rappel du décès de sa grand-mère. Elle était toute jeune, elle était enfant. Et elle dit que si elle s'était pas emplie d'imaginaire, elle aurait traîné une morte toute sa vie. Un autre épisode aussi que je trouve un peu triste, c'est qu'elle avait, petite fille, vraiment là, 4-5 ans, une amie imaginaire qu'elle appelait Lisette. Et son père ne pouvait pas supporter ça. Alors, un jour, elle raconte qu'il va la prendre par le bras. Ils sont en train de manger ensemble. Ils sont 6 autour de la table. Il la prend par le bras. Il s'en va vers la porte qu'il ouvre, puis qu'il dit, bon, ben dehors, je ne vais plus jamais la voir. Autrement dit, ton amie imaginaire, sors-la d'ici. Et elle ne trouve pas de mots à dire. Là, elle est figée. C'est assez marquant, effectivement, de se faire dire ça.
Traumatisant, même?
Oui. Et puis là, plus tard, elle va faire des lectures, puis il y a une autrice qui va citer quelqu'un qui dit que sa petite fille faisait ça, puis elle disait à son père, « C'est normal que tu la vois pas, mon amie. Elle non plus, elle te voit pas. » Donc, c'est comme un espèce de secret entre l'enfant imaginaire et l'enfant, comme quoi les autres peuvent pas voir autour. C'est un petit secret, puis c'est amusant, puis c'est ça, l'imagination. Et ce qui fait que, bon, ben, cette autorité-là est difficile par rapport au père, on comprend ça. Et plus loin, elle va dire, le hangar de mon enfance ne fait pas partie de la maison. Il est au fond de la cour. L'antre du père, de l'autorité contre laquelle j'ai lutté à divers stades de ma vie jusqu'à la décision d'une fugue, l'abandon des études, puis le départ définitif du foyer familial à mes 18 ans. Donc, on comprend là, que ça date, ça fait longtemps que cette tension-là entre les deux. Donc, l'enfance, les souvenirs sont parmi plein d'autres choses, mais moi, ça m'a touchée particulièrement parce que je sais que Louise Warren a enseigné la littérature jeunesse à l'Université McGill pendant un certain temps. Elle donnait des charges de cours, donc elle s'est plongée dans ça et elle était une lectrice enfant aussi. Elle raconte qu'à un moment donné, il y a une tempête de neige, elle s'en va en train avec sa marraine à New York, puis elle lit la nuit. Donc, une expérience qu'elle n'a pas oubliée parce qu'elle est enfant, elle a peut-être 10 ans, là. Donc, tous ces souvenirs de ce manque, de ce vide, de cette difficulté d'être quand on est enfant avec tout le reste, c'est ce qui fait la sensibilité qu'on retrouve, l'émotion qu'on retrouve à travers le temps, à travers les textes, et combien elle est attachée à des livres, des objets, des auteurs.
Mais le voyage à New York, j'imagine que ça a mis de la magie dans sa vie.
Oui, puis c'est le est en train puis de se faire balloter alors que c'est la tempête de neige dehors. C'est comme un film, on voit l'image. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'être une poète pour suivre Louise Warren dans ce texte qui est intime, on a l'impression qu'on s'assoit à côté d'elle là, puis qu'on feuillette ses cahiers. Puis qu'elle nous, elle, en même temps, elle réfléchit avec nous sur ce que c'est le processus de création. On voit ses collages, on voit des pans de sa vie à travers les pages du livre. Et on est dans son atelier. On comprend très, très bien son processus. Mm-hmm. Et son processus peut ressembler à celui de plein de gens. On se reconnaît là-dedans parce qu'on a tous, finalement, des traumatismes, des vides dans notre existence, comme ça, que la littérature, la beauté, la création, le rêve peut combler. Et l'imaginaire surtout.
On pourrait comparer son livre à un herbier littéraire.
Oui, oui, exact. D'ailleurs, il est question de l'herbier de Emily Dickinson, je crois, dans le début du livre. Oui, alors on sent que c'est toute cette chose-là qui l'a nourrie au fil des années, qu'elle a ramassée, recueillie dans ça, pour nous offrir. D'ailleurs, la page couverture, ça ressemble à un herbier.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Donc, très, très beau livre à lire lentement. Et dans la deuxième partie, j'ai oublié d'en parler, mais dans la deuxième partie, là, c'est plus de la poésie, ou tout à fait en lien avec le début du texte qui est donc la partie essai est plus importante, mais dans le même sens, elle va nous livrer des tout petits vers très brefs et qui nous amènent à méditer. C'est un espace de méditation qui est la dernière partie du livre.
On en a besoin de méditation. Ouais. Recueillir par Louise Warren aux éditions du Norrois 2025. Et c'est un recueil qu'Anne-Marie Aubin a lu pour nous, pour elle aussi. Et que vous avez bien aimé, que vous nous recommandez chaleureusement. J'ai cru le percevoir dans votre chronique. Merci Anne-Marie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Non, on n'est pas là la semaine prochaine. C'est la journée de la vérité. Je cherche l'expression juste pour ne pas dire des sornettes. Alors, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et nous faisons une pause ici, justement, d'accord, pour se recueillir. Donc, on se retrouve le 7 octobre.
OK, merci.
Au plaisir. Au
Fait qu'on retombe sur des nuages, puis on finit sur sa plage, des petits matins sous la rosée. En quelque part en mai, à quelque part on a bu le nectar, on a brûlé des phares. À quelque part on avait de l'espoir, on avait la guitare. C'est ça que j'aime, ce que tu sèmes, ce que tu l'aimes, ce que tu mènes à bout de bras, à bout de madrier. C'est quoi le thème? On a un pen. Let's go, my friend. Let's make lots of money. C'est l'amitié qui nous freine quand l'amour nous binge, quand la mode est passée. La mode est passée. Tout partout sur mon visage, il y a des milliards de décimales décimées. On va se dire le voisinage.
plus de bons que de mauvais côtés. De faire fort fort demain en matinée. À quelque part, on a travaillé fort, on a flobé notre port. À quelque part, qui dit que l'effort était toujours récompensé. À quelque part, on a bu le nectar, on a brûlé des phares. À quelque part, on avait de l'espoir, on avait la guitare.
Hey, on s'est réveillé avec je sais pas qui, je sais pas où, mais je suis quelque part. Un autre matin où je me demande qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Elle me dit tout va bien, y'a pas le feu, pourquoi t'es déjà sur ton départ. Je lui ai répondu t'es un pétard, mais j'ai pas le temps pour tes pep talk. Oh non, yeah. On change la lumière, on veut s'éclater, c'est pour ça qu'on fait tard. Shooting star, mais tout ça est égal, la balle dans le réservoir. Plus de 8 milliards de trajectoires. Y'a de l'écart entre ce qu'on pense qui est vrai et tout ce qu'on nous fait croire. Les comparses qui se comparent, ça c'est les murs qui nous séparent. C'est des bêtes noires dans un trou blanc, c'est troublant le désespoir. Oh non, yeah. J'avais le bonheur au bout des doigts, mais je suis plus sûr ça m'échappe. Mais dans mon fast car, j'écoute Tracy Chapman. Comme I, I got a feeling that I'm alone. J'essaie de revenir à moi, mais je me perds la route. C'était mieux quand on pensait que tout ça allait nulle part. La belle époque où canalisait ce qu'on ressentait dans les arts. Mais la Morgane de la Viper, j'étais avec des lézards. Code barre sur l'orage qui brûle, c'est ça, est une rockstar. Ma femme me réveille, chérie, t'as la tête dans les nuages. Suis-moi dans la marina, j'étais que le sac sur la chaleur.
Collaboration de Marc Derry et d'Imposs pour la pièce ou la chanson Quelque part.
Oui, Marc Derry qui a lancé son 6e album solo, c'était le 19 septembre, c'est tout récent. J'aime ça quand t'es là. Et jusqu'à maintenant, là, toutes les chansons qu'on a écoutées, qu'on vous a fait découvrir ou redécouvrir sont excellentes, selon moi. Êtes-vous d'accord?
Non, absolument.
Accessibilité et handicap, c'est comme le jour de la marmotte. C'est dans le Soleil par Megan Harvey, un article paru ce matin. Le carrefour familial des personnes handicapées lutte pour de meilleures conditions de vie et la défense des droits des personnes handicapées. Pour les personnes handicapées, les revendications sont presque toujours les mêmes. Toilettes adaptées, accès au commerce, trottoirs dégagés. C'est comme le jour de la marmotte, finalement. C'est toujours les mêmes revendications, résume Julie Montreuil, du Carrefour familial des personnes handicapées. Les membres du Carrefour familial attendaient fermement le soleil dans ses locaux du quartier Saint-Roch. Feuille en main, les 6 personnes autour de la table étaient bien déterminées à se faire entendre en marge des élections municipales. Les revendications qu'on a, ça fait 4 ans qu'on essaie que les personnes en place, les élus, en fassent quelque chose, lance d'emblée Julie Montreuil, directrice des services cliniques au Carrefour familial des personnes handicapées. Julie Montreuil, donc pour elle, cet enjeu n'a jamais semblé être une priorité pour Bruno Marchand, qui est le maire actuel de Québec. Je n'ai jamais senti que c'était si important le handicap pour lui. C'est bien beau les espadrilles, les chou-claques, la course à pied, les vélos, mais la marche piétonnière et les personnes qui se mobilisent activement, mais pas par ces moyens-là. Elles sont laissées pour compte quand elles n'ont pas ces moyens-là. L'organisme qui a fêté ses 75 ans l'an dernier a pour mission de favoriser l'autonomisation et l'éducation populaire ainsi que de lutter pour de meilleures conditions de vie et la défense des droits des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap, ce sont des citoyens de la ville et on ne s'en occupe pas du tout, dénonce Odette Lavoie, une usagère du Carrefour. Près d'1,5 million de Québécois de 15 ans et plus, soit 21 % de la population, vivent avec une incapacité limitant leurs activités quotidiennes, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité réalisée en 2022. Au quotidien, les irritants sont multiples. Pancartes, bacs sur les trottoirs en mauvais état transforment la ville en parcours d'obstacles. Quand tu es en quadriporteur ou en chaise roulante, tu as ça dans les jambes, illustre Alexandre Maheu, qui se déplace en fauteuil roulant. L'accès aux commerces et terrasses reste un autre combat de l'organisme. Selon la directrice, la ville avait d'abord accepté de se pencher sur la question avant de reculer. Ils ont dû se dire « on va perdre les commerçants, on va perdre des taxes », croit-elle. La bibliothèque Gabriel Roy, pourtant saluée à l'international, est aussi montrée du doigt par l'organisme. Malgré l'existence d'un guide municipal qui précise les normes d'accessibilité à suivre, de grosses erreurs y sont observées. La plus frappante concerne la signalisation. Une des choses à ne pas faire, c'est d'écrire les choses en gris sur fond blanc, parce que ça manque de contraste pour les personnes qui ont des limitations visuelles. Dans la bibliothèque, tout est gris sur fond blanc, dit Julie Montreuil, exaspérée. Portes de toilette non adaptées, équipements installés en retard et d'autres erreurs flagrantes aggravent la frustration. Pour Mme Montreuil, cet exemple illustre que ce ne sont pas encore des dossiers qui vont faire la une, malheureusement. Alors, voilà pour cet article intitulé « Accessibilité et handicap, c'est comme le jour de la marmotte » dans Le Soleil d'aujourd'hui par Mégane Harvey. Et c'est là-dessus que je vais vous saluer. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute d'Au quotidien. Merci encore à Denis-Martin Chabot qui était là aux commandes d'Au quotidien hier. Et ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci Mathieu Tessier. On se retrouve demain à compter de 9h30.